Bonjour Samia, bienvenue dans les studios de Fréquence Mistral.
Bonjour, merci pour l'accueil.
Nous allons parler d'un sujet aujourd'hui qui nous concerne tous et toutes, à savoir la mort.
Exactement.
Ce sujet, vous l'abordez d'une manière radiophonique, par le son, donc par une création sonore dans le cadre d'une résidence, dans le cadre du festival numéro 0. C'est un festival de cinéma et de création radiophonique. Cette année, c'est la 5e édition. Ça se passe du 3 au 8 mai 2022 à Forcalquier-Lure et Bannon.
L'Urse,
merci. C'est bien qu'il y ait des Marseillaises qui viennent nous rattraper sur la prononciation des mots des petits villages aux alentours de Manosque. L'Urse, donc.
Exactement.
Vous pouvez nous rappeler les dates de cette résidence? Ça dure un moment.
Alors, c'est une résidence de 5 semaines. Mais moi, j'ai un peu triché. Je suis restée plus, puisque j'ai passé, grosso modo, tout le mois de janvier et le mois de février dans les environs de Forcalquier.
Ce travail sur la mort consiste principalement une collecte de récits de vivants, donc, et qui anticipent leur propre mort. Comment tu t'es intéressé à ce sujet? Comment c'est venu jusqu'à ton intérêt qui est que tu as voulu passer du temps, tout simplement, à décrire cette mort? Et puis c'est particulier aussi de collecter des témoignages de vivants autour de la mort. J'imagine que ça vient toucher une histoire personnelle.
Bah, c'est effectivement le genre de sujet dont on est toujours un peu proche. Moi, je dirais que je suis quelqu'un... Je me qualifie comme une dépressive joyeuse. Donc, je suis quelqu'un de très heureux, mais qui a très souvent eu envie de mourir.
C'est un beau lapsus.
Non, oui, j'ai eu une adolescence assez tourmentée et très suicidaire. Et puis, un jour, je me suis fait à l'idée que, ouais, il fallait mourir, quoi. Qu'il fallait vivre. Pardon, je...
Double lapsus.
Non, oui, une adolescence un peu suicidaire. Et puis, un jour, j'ai compris que c'était bien de profiter du fait d'être là, tant qu'à faire.
Donc, ça vient parler à cette histoire personnelle, le fait d'aller vers les autres pour écouter leurs témoignages.
Ouais, en fait, je pense qu'on est nombreux à avoir des rapports singuliers avec la mort, que c'est des choses c'est un avenir qui est très très flou pour nous tous, mais sur lesquels on a tous des idées un peu précises et flottantes. Et du coup, je suis sûre que, voilà, dans la queue d'une boulangerie, si on demande à la personne juste avant nous ou juste après nous, un peu ce qu'elle pense de la mort, elle aura des choses pertinentes à nous en dire et des choses qui vont nous surprendre ou pas, ou avec lesquelles on sera en désaccord ou en accord. Enfin, en tout cas, ça peut créer des conversations assez riches.
Mais c'est un sujet angoissant pour le coup. Pas que.
C'est un sujet qui peut être angoissant, mais c'est aussi un... En fait, quand on parle de mort, vu qu'on ne sait pas très bien ce qui se passe exactement pendant et après, s'il se passe quelque chose après, finalement, on parle toujours un peu de ce qui nous reste à vivre d'ici là. Et du coup, quand on a de la chance, dans ce qui nous reste à vivre d'ici là, c'est pas mal d'amour avec tous les autres gens qui sont encore là pendant un certain temps. Et donc, ça parle très vite, en fait, de vie, d'amour, de joie, de ce qu'on aime faire.
Mais dans les personnes que vous avez interviewées, peut-être c'est aussi des personnes qui ont déjà un regard spécifique autour de la mort, c'est-à-dire que ça reste une question dans le sens où il y a des religions et des civilisations qui ont répondu à cette question et qui répondent. Donc peut-être qu'il y a aussi des gens qui ont certaines formes de réponses. Mais là, pour le coup, les gens que vous avez interviewés, c'est des gens qui n'ont pas de réponse, j'imagine. Ou pas, peut-être pas.
Eh ben, justement, je pense que tout le monde a un petit peu des réponses, plus ou moins, c'est quoi le mot, validé par les différentes religions ou la science. Non, il y a un peu de tout dans ce que j'ai rencontré. Il y a des gens qui sont venus vers moi parce que c'était un sujet qui les angoissait beaucoup. Il y a des gens très croyants dans le tas. Il y a des gens qui sont convaincus qu'il ne se passe rien après, mais que ça n'angoisse pas. Il y a un peu tous les profils. J'ai pas rencontré de bouddhiste pour l'instant, ni de... C'est tout.
C'est tout. Mais sinon, des catholiques, musulmans...
Ouais, des catholiques, des musulmans, une dame qui est ermite à Ongles, qui est une ville juste à côté de Fort-Calquier, et donc qui est sœur.
Là où se trouve la résidence, le lieu de la résidence où vous étiez accueilli.
Ouais, là où on est logé, dans la maison qui est prêtée par la communauté de communes de Fort-Calquier, je crois. Mmh. Et qu'est-ce que j'ai pas rencontré ?
Et ermite, pardon, je reviens sur cette personne, ça fait partie de son mode de vie religieux ?
Ouais. Ouais, ouais, c'est une sœur qui... C'est comme ça qu'elle... Je sais pas comment elle le formulerait, et j'ai peur de faire des bourdes, mais quand un jour elle s'est dit que ce qu'il fallait qu'elle fasse dans la vie, c'était être sœur, elle l'a imaginé seule. Du coup, j'imagine que c'est pas les mêmes ermitages que dans au XVIIIe siècle, quand les gens sont dans des grottes, tout ça, mais c'est quand même... faut le faire, quoi.
On va écouter dans quelques instants un extrait à deux voix de ces entretiens. Donc un panel de témoignages divers et variés. Mais cette question de la mort ou peut-être du néant ou bien même de l'absence de sens, c'est quelque chose que l'on retrouve à travers vos différents travaux. On en parlait tout à l'heure hors antenne. Ça vous intrigue aussi ? Ça vous ou ça te ? Parce que je mélange, petite parenthèse, le vouvoiement et le tutoiement. C'est très étrange pour les gens qui nous écoutent. Donc, on va partir sur un tutoiement. Voilà. C'est quelque chose qui te travaille.
Ouais, c'est un... oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, avant de m'intéresser à la mort, il y a une petite fascination pour la mort violente. Et du coup, quand j'étais étudiante en documentaire, j'avais commencé mon travail par aller... en fait, j'aime bien les faits divers. Et du coup, au palais de justice, il y a des gens qui assistent à toutes les audiences et j'avais envie de savoir un peu ce qu'ils faisaient là et pourquoi ils étaient là. C'est comme ça que j'avais rencontré des personnes vraiment très chouettes et très singulières. Et puis, en faisant ce travail-là, on m'avait dit qu'il y avait aussi des gens qui allaient assister à tous les enterrements. Et donc, c'était mon étape suivante. Et puis, finalement, ça s'est un peu noyé. Et j'ai eu envie d'aller ailleurs. Je me suis dit, j'aimerais bien faire quelque chose sur tous les corps de métier entre lesquels on passe, du moment où on vient de mourir à 15, 20 ans après, quand on nous enlève de la grande boîte dans laquelle on est pour nous mettre dans une plus petite boîte. Et du coup, aller voir tous ces corps de métier-là. Et en fait... j'avais commencé et il y a des choses qu'on aurait pu imaginer compliquées à obtenir. Par exemple, j'avais trouvé une thanatopractrice. Donc, c'est les gens qui embaument les morts, qui étaient fleuristes avant d'être devenue thanatopractrice, qui étaient d'accord pour que je filme. Mmh.
C'était un travail visuel, là, pour le coup ?
Pour le coup, c'était la deuxième année quand j'étais étudiante et là, c'était un film. Mmh. Donc ça, je pensais que j'allais avoir beaucoup de difficultés à l'avoir. Mais elle était d'accord. Par contre, c'était beaucoup plus compliqué... dans des moments qui semblent... ça coinçait pas là où j'imaginais que ça coincerait, mais ça a coincé à certains endroits. Mmh.
Ces sujets que vous avez abordés en amont qui t'ont amené à aborder ce sujet spécifique, à savoir le projet s'appelle Pompe Funèbre.
C'est ça. Oui, on y revient toujours, en fait. Du coup, j'avais passé beaucoup de temps avec les pompes funèbres d'Angoulême, avec le gardien du cimetière de Soyaux, qui est une petite ville juste à côté d'Angoulême. Et j'avais adoré les gens que j'avais rencontrés, qui étaient des gens avec une grosse force de vie, assez joyeux. Et en fait, dont le métier était de prendre soin des vivants qui entourent la personne morte dont ils s'occupent, quoi.
Peut-être le mieux, c'est d'écouter un extrait de ces interviews, un extrait à deux voix.
Après, si jamais je meurs à 97 ans et que tout le monde est mort, peut-être que je me ferai juste... Bon, on verra où on en est quand j'aurai 97 ans. Et peut-être il y aura deux potes qui seront là, hein, et bah, ils chanteront, ils claqueront leurs dentiers ou j'en sais rien. Mais oui, en même temps, je préfère me dire que quand je mourrai, il y aura peut-être que trois personnes, quoi. Mes parents seront plus là, que limite, ouais, il y aura vraiment deux, trois personnes à se dire, bon bah, 97 ans, c'est bien, fallait qu'il y aille, quoi. Dans ces cas-là, ça sera quand même dans une forêt. Puis on verra, ça se trouve, quand j'aurai 97 ans, la forêt dont je parle aujourd'hui, il y aura des immeubles où il y aura des panneaux photovoltaïques, à savoir. Alors là, me faire épandre sous un panneau photovoltaïque, c'est sûr que c'est quand même moins drôle. Dans ces cas-là, je préférerais peut-être l'océan. On verra. Ce sera plus la Bretagne. J'ai un peu des racines là-bas. Donc si vraiment, 97 ans, il y a encore quelqu'un qui est valide pour pouvoir emmener mes cendres jusque là-bas. Ou peut-être j'aurais mis dans mes cotisations prévoyance un drone, en fait, qui se charge de le faire à la place des gens. Il y aura peut-être juste un drone, et puis les gens, ils regarderont ça en visio et ils seront contents. Alors là, je choisirais la musique. Voilà, je pense. Je me rappellerai de mes vieux groupes de quand j'étais jeune, genre quand j'avais l'âge que j'ai, à 97 ans. Et les gens, ils iront, voilà, sur leur terminal numérique de cette époque-là, et puis ils verront le drone lâché sur l'océan. Ouais, après, ça peut être pas mal aussi.
Je sais pas pourquoi j'imagine ça, c'est drôle. En fait, c'est comment à la fois faire de ce temps-là un temps de recueillement qui soit assez long pour qu'il soit éprouvé. Tu vois, que ce soit pas trop voiture, paf, 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 comme c'est maintenant, quoi. On va le chercher, la mise en bière, pup, voiture, puis retour, machin, ta, et puis c'est fait, quoi. Moi, je sais qu'à l'enterrement de ma grand-mère, par exemple, on avait prévu un... C'était drôle parce qu'on avait un... Ma mère avait prévu de la musique. Et puis, l'appareil qui devait diffuser le CD du mec des pompes funèbres ne fonctionnait pas. Et donc là, ça commençait à être vraiment risible. Et du coup, mon cousin a ramené la voiture à deux pas de là où il y avait le cercueil. C'était avant qu'on aille le mettre dans la terre. Enfin, dans la fosse. Et du coup, on a mis le CD dans la voiture, les portes ouvertes. Et alors là, j'ai trouvé ça génial. Parce que, en fait, ce qui est bon, c'est les accidents, quoi. C'est des trucs où tout d'un coup, la vie, justement, reprend ses droits. Et puis, où ça se marre, en fait. Enfin, ça, c'est génial. Mais ça, c'est difficile de le prévoir, quoi. Mais des trucs qui foirent et du coup, les gens qui se marrent, ça, c'est quand même parfait, quoi. Mais après, ouais, voilà. Donc, je sais pas. Ouais, une procession et ouais, voilà.
Merci Samia pour ces deux témoignages issus donc de cette collecte que tu as réalisée pour ce projet de création sonore Pompes funèbres autour de la mort. Quelques mots sur ces deux témoignages ou...
Oui, alors déjà, je peux... Donc en fait, les entretiens que je fais avec les gens que je rencontre, c'est que je leur demande comment est-ce qu'ils organiseraient leurs funérailles. Et j'ai des questions très très... J'ai beaucoup de questions et des questions très très précises... enterrement, inhumation, autre chose, quel cercueil, où est-ce que ça se passe, comment ça se passe, qui fait quoi, et puis, etc.
C'est toujours le même procédé, les mêmes questions.
C'est grosso modo toujours les mêmes questions. Après, des fois, les gens m'emmènent un petit peu ailleurs, et c'est bien aussi. Là, j'ai choisi des extraits plus joyeux, parce que c'était court et que c'est plus difficile de mettre quelque chose d'un peu triste ou lourd sur une petite durée. Mais de manière générale, les gens imaginent ce moment-là comme un moment assez joyeux. Donc, il y a assez peu de choses très douloureuses. Qu'est-ce que je peux dire ?
Là, en tout cas, effectivement, ça saute aux yeux, plutôt aux oreilles, cet aspect « drôle » entre guillemets, où la vie reprend ses droits, l'accident ou bien même le drone avec cet enterrement... par oui. Visio.
Oui, là, on
puis
a...
un recul, en fait, un recul des deux témoins. Une sorte d'autodérision, presque.
Mais en fait, l'exercice d'imaginer ses funérailles, quand on n'est pas malade et mourant, c'est plutôt un exercice de mégalomanie, parce qu'on est en train de réfléchir à une... bah, pas forcément à une fête, mais en tout cas à une célébration qui réunit tous les gens qu'on a aimés. Mmh. Et on imagine tous ces gens-là... exister alors que nous on n'existe plus, c'est rigolo, il y a les manifestations musicales fantômes.
Oui, je sais pas si les auditrices auditeurs entendent, mais effectivement il y a un fond de musique qui vient de s'inviter dans les studios, j'ai absolument aucune idée d'où ça vient.
Je dirais une contrebasse.
Oui, peut-être dans la rue.
Oui, je sais plus ce que je disais.
exercice de mégalomanie, ouais, de parler de son enterrement, puisqu'on est entouré par les gens qui nous aiment ou qui nous ont aimés plutôt. Et cet espace personnel et fictionnel peut-être ramène à soi aujourd'hui, d'où la mégalomanie. En tout cas, c'est un exercice assez intéressant puisque c'est assez rare de faire ça.
Bah, c'est un exercice qu'on fait assez peu souvent. En fait, on pense souvent à la mort. Je pense, je dis souvent, mais en tout cas, on pense à la mort parfois. On pense où on vit la mort de proches, de gens qu'on aime. Mais on pense beaucoup moins à la façon dont on mettrait en scène le moment de sa disparition. Et du coup, c'est un prisme qui... C'est un prisme qu'on n'a pas l'habitude, qui est un peu déroutant. C'est la partie qui m'amuse. Moi, j'aime bien poser des questions à des gens que je connais pas, qui sont des questions que j'oserais pas forcément poser aux gens que je connais. Enfin, je trouve que c'est toujours un truc assez chouette. Donc, il y a un truc où on est un peu déstabilisé parce qu'on n'a pas l'habitude de trop se projeter dans ses funérailles à soi. Et en même temps, ça commence par cet exercice de mégalomanie et puis ça permet d'être à l'aise et bien ensuite pour aborder toutes les questions un peu plus délicates, quoi.
Mais c'est aussi, j'imagine, créer un espace de confiance avec la personne, puisqu'on parle tout de même de quelque chose d'assez intime.
Oui, oui, oui.
Ça, c'est quelque chose que j'imagine que tu as pensé dans la relation à l'entretien.
Oui, bah moi, ça m'importe que, en fait, pour tout dire, j'étais un peu déçue parce que donc, tous les gens que j'ai rencontrés, à la fin, ils meurent et je leur demande comment ça se passe pour eux, comment est-ce qu'ils se sentent morts. Et à chaque fois, ils me disent que bon, ils se sentent plutôt bien, en fait, c'est chouette. Et du coup, j'ai réécouté mes entretiens en me disant, mais c'est pas normal que tout... Et en fait, c'est parce que je pense que j'ai tellement peur que ce soit un sujet délicat pour les gens que Ouais, en fait, il y a une grosse partie de moi qui est concentrée sur le fait que de ne pas mettre en difficulté les personnes que je rencontre, de faire en sorte qu'elles se sentent bien, qu'elles puissent elles aussi rire de ce sujet, qui est leur mort à elles, et que même si ça les remue, parce que l'idée c'est qu'elles me disent un peu ce qu'elles ressentent, donc c'est pas que ce soit des corps morts, quoi, c'est encore des gens qui éprouvent des trucs. Mais ouais, que ce soit pas un exercice douloureux. Enfin, mon but, c'est pas de torturer des gens en leur tapant sur la tête, en leur disant qu'ils vont bientôt mourir, quoi.
Mais il y a tout de même un exercice avec une écoute radiophonique où tu mets les personnes en condition.
Pas du tout.
D'accord.
J'ai du temps à envoyer sur une... Non, non, non.
J'ai cru qu'il y avait ce moment-là dans le...
J'ai peut-être mal... En fait, au début, je le réfléchissais comme un moment très théâtralisé où je voulais, moi, être... plus que je ne le suis dans un personnage d'agente des pompes funèbres. Et où l'idée, c'était d'avoir des catalogues, tout un décorum et tout ça. Et en fait, on m'a prêté un lieu qui était très, très, très chouette pour faire mes entretiens au début, qui s'appelle la Maison des Chapitres, qui a un espace avec plein de petits santons géants partout et... Mmh. Des couronnes funéraires en perles, et puis il y a aussi un grand tableau avec des gens tout nus entassés les uns sur les autres qui, je sais pas très bien, je crois que c'est une vision du paradis, mais qui moi m'évoque plus le charnier, mais enfin ça c'est des goûts personnels. Mais du coup il y avait un espace très très habité qui m'avait été prêté et offert comme ça, donc ça m'a soulagé un peu mon travail personnel de scénographie. Donc non, je fais pas écouter des choses aux gens, mais par contre je suis prête à répondre à toutes les questions. En fait, c'est des moments qui durent longtemps et où je peux répondre à tout. Enfin, c'est un moment d'échange en fait et de rencontre. C'est l'avantage de poser des questions intimes à des gens qu'on ne connaît pas, c'est qu'à la fois on peut être très voyeuriste et mettre les pieds dans le plat et en même temps on se connaît pas très bien, donc c'est pas très grave en fait si. J'essaye de trouver une métaphore pour dire un peu ce qui se passe dans ce genre de rencontre, quoi.
En tout cas, c'est assez parlant. Même pour les gens, se confier davantage, c'est plus facile quand on ne connaît pas la personne. En tout cas, ouais, dans ce cadre-là. Après, on n'est pas obligé de tout dire, j'imagine, non plus. Il y a un dispositif précis, on est enregistré. C'est quand même pas la même chose non plus, quoi.
Oui, j'ai un micro très, très près de la bouche des gens qui ressemble un peu à une espèce d'arme extraterrestre. Mais les gens savent que bah, déjà ce que je veux faire de ces voix-là. Et puis que s'ils ne veulent pas répondre à des questions, ils peuvent passer. J'ai interviewé des enfants, par exemple, et ils ont beaucoup passé mes questions. Mmh. Mais ça, ils ont le droit.
Ça représente combien de personnes, ces témoignages ?
Pour l'instant, ça représente 40 personnes.
40 personnes.
Ce qui est... En fait, au début, j'avais très très peur que personne ne veuille répondre à mes questions. Maintenant, je sais que les gens veulent bien. J'ai même un problème de... J'ai beaucoup de matière.
Parce que c'est énormément de matière pour ton projet, puisque l'idée, c'est de le présenter la première semaine de mai, lors du numéro 0, le festival, donc du 2 au 8 mai.
Oui, c'est ça. L'idée, à la fin, c'est de faire une installation dans un cimetière, donc celui de Forcalquier. En fait, Edison, qui est l'inventeur du gramophone, qui n'est pas quelqu'un de super sympathique quand on commence à le connaître un peu plus, mais il a inventé énormément de trucs et c'est quelqu'un de, a priori, sérieux. Il était convaincu à la fin de sa vie qu'on pourrait mettre des pavillons de gramophone au-dessus des tombes et papoter avec nos défunts comme ça. Mmh. Et de manière générale, en fait, le son, l'invention de la radio, de l'enregistrement sonore, tout ça, c'est un peu comme la découverte de la photo. Au début, les gens se disaient, c'est un peu comme si on capturait l'âme de quelqu'un, quoi. Mmh. Et qu'on pouvait la restituer. Et du coup, il y a l'envie de faire un clin d'œil à ce truc-là. Et donc, il n'y aura pas des pavillons de gramophone au-dessus des tombes, parce qu'on est parti sur quelque chose d'un petit peu plus discret. Mais l'idée, c'est de jouer avec plein d'émetteurs. Des émetteurs, c'est... Est-ce qu'il faut que j'explique ce que c'est qu'un émetteur ou c'est pas la peine ?
C'est une radio, c'est l'endroit où on peut... l'outil avec lequel on peut écouter le son.
Ouais, exactement. Du coup, l'idée, c'est d'avoir plein d'émetteurs, tous branchés sur la même fréquence, qui sont dans le cimetière, qui se parasitent les uns les autres, et que vous, si vous avez envie de venir, vous puissiez vous balader entre les allées du cimetière de Forcalquier, qui a la particularité d'avoir un... Ils appellent ça un cloître végétal, un labyrinthe d'if, donc qui est assez propice à la déambulation et qui a une personnalité assez particulière comme cimetière. Mmh. Donc l'idée, c'est qu'on se balade avec un casque et un petit récepteur radio et qu'on joue un peu à l'apprenti spirit. On essaye de trouver les voix des morts qui ne sont pas vraiment morts, qui parlent au milieu des vrais morts qui, eux... Que j'ai pas encore les moyens d'enregistrer.
Peut-être bientôt. On va écouter un deuxième extrait de témoignage et on reviendra sur ce dispositif d'écoute un peu plus en détail par la suite.
Je vois les gens autour qui se demandent ce qui se passe et qui se rendent compte petit à petit ce qui vient de se passer. Il y en a certains qui ont peur, d'autres qui pleurent, et d'autres qui partent en courant. Et il y en a certains même qui viennent pour vérifier que c'est bien vrai.
C'est parti, c'est fini. Et après, il y a des gens qui pensent qu'après la mort, ça continue encore quelque part. Non, pas. Non, je crois quand c'est fini, c'est fini.
Il n'y a plus rien. Le monde s'éteint. C'est comme si on était la lumière et que... se retrouver dans le noir total. C'est calme. C'est calme, c'est reposant. Donc c'est un avantage parce que j'ai plus rien dans la tête. Et je suis pas toute seule. Je vois des lueurs avec des corps quand même. J'ai l'impression que j'ai des yeux sur tout le corps parce que je les vois tous autour de moi. La plupart ils sont calmes. Il y en a quelques-uns qui, j'ai l'impression, qui crient, qui ont peur.
Je souris en imaginant qu'on se rejoigne tous. Et que ça soit merveilleux, quoi. Et puis s'il n'y a rien, il n'y a rien, c'est pas grave non plus. Si ça s'arrête, stop, arrêt, il n'y a plus rien, bah ok. Et puis pour tous mes proches, c'est comme si j'avais envie de redire, tu vois, encore et encore. Ne vous inquiétez pas, quoi. Profitez pour vous. Restez paisible avec ça. Je suis partie peut-être, mais tout va bien.
Je sens comme un... Je sens comme un regret. Un regret général. Je pense que je vais voir ce que... Ce que je peux faire en parlant à moi-même. Je crois que je vais avoir du temps pour parler avec moi-même et ressasser plein de choses. Ou peut-être qu'au final, ça sert à rien. Peut-être que je vais juste me taire. Et peut-être que... Oui, c'est ça. Je vais me taire et attendre. Attendre pour voir. Peut-être que pour moi c'est trop tard, mais pour vous, c'est... vous avez le temps. Vous avez peu de temps. Faites que les choses bien. Parce qu'on n'a pas assez de temps pour faire les choses bien et les choses mal. Faites d'abord les choses bien en urgence.
Pour cette deuxième partie, deuxième extrait de témoignage de cette collecte de personnes qui parlent de leur propre mort et de la mort en général, pour le coup, Samia El Hadj, dans le cadre de votre projet, de votre résidence, Pompe Funèbre, là on est davantage dans l'intime et un peu moins dans le recul et dans le drôle, pour le coup, comparativement au premier extrait qu'on a écouté.
Oui, en fait, j'ai un gros côté Tageda de soin de manière générale. Mais ce qui m'intéresse, c'est aussi... en fait, je pense que c'est un bon terrain d'accroche pour rencontrer les gens, pour aussi rencontrer les gens qui écoutent, les auditeurs. Et après, je trouve que c'est très chouette, en fait, ces moments où on partage une intimité avec quelqu'un et où... Ouais, on se donne un peu plus... on a un peu rigolé et du coup, hop, on peut accepter de livrer certaines choses.
Là, on le sent même dans la texture de la voix, dans le rythme, et aussi tous les sons de bouche, les souffles, etc.
Ouais.
Qu'on rentre dans des sujets très prégnants.
Ce que je vous ai pas dit là, c'est qu'en fait, ce petit montage de gens qu'on entend parler, en fait, ils sont morts, avec des guillemets. Y a un moment dans l'entretien où je demande aux gens de faire semblant de mourir, et si je... En fait... À la base, j'aurais aimé pouvoir papoter avec les morts, mais vu que scientifiquement, il n'y a pas encore de manière éprouvée de le faire, je me suis dit, bon, on va parler avec les gens qui vont mourir un jour. Et du coup, dans l'entretien, à la toute fin, il y a un petit moment où je demande aux gens s'ils sont d'accord pour faire semblant de mourir. Et puis après, je continue de leur poser des questions. Et donc ça, c'est un issu de ce moment-là. Et en fait, c'est un exercice qui est assez particulier où... plus remuant que ce que je pouvais imaginer, en fait.
C'est cet exercice auquel je faisais référence tout à l'heure, mais on ne s'est pas compris.
Ah, pardon.
Non, c'est pas grave, mais c'était... Je parlais de cet exercice, donc cette mise en condition de la mort. Donc ça fait bien partie du dispositif pour collecter cette parole. À un moment donné, ça existe dans ces entretiens.
Oui, et puis, en fait, y a cette volonté de faire une installation dans le cimetière, c'est à la fois... pour se réapproprier ce lieu-là, qui est un espace plus ou moins public, mais en tout cas qui est un espace qu'il faut... où il y a un patrimoine complètement dingue et qui peut être assez chouette à parcourir. Et aussi, du coup, pour les auditeurs, pour vous, si vous voulez bien venir, il y a cette idée de... Ah, c'est rigolo, on est dans le cimetière, on se balade. Mais en fait, il y a aussi des gens qui continuent de mourir pour de vrai. Il y a peut-être un enterrement qui aura lieu en même temps, peut-être des gens qui se recueillent. C'est cette idée à la fois de tension entre... c'est un sujet grave dont on peut rigoler et dont on doit rigoler. Mais en même temps, ouais, c'est aussi un sujet qui nous fait peur, qui nous rend triste.
Mais justement, par rapport à ce dispositif et ce que tu es en train de décrire, on imagine qu'il il peut y avoir des situations un petit peu compliquées avec des personnes qui viennent se recueillir, par exemple, au moment de l'écoute qui est prévue dans le cimetière avec différents émetteurs, etc. J'imagine que c'est quelque chose que tu as pensé aussi, de prendre soin de cette situation et des personnes qui seraient amenées à tomber un peu par hasard sur ce dispositif sonore.
Alors pour l'instant, si jamais il y a un enterrement en même temps, moi j'ai plus le droit d'être là, ce que je peux comprendre. Et après, je compte un peu sur... Donc c'est un dispositif qui ne fait pas de bruit, puisque les gens ont un casque et une petite radio. Après, c'est vrai que si vous êtes nombreux et que tout d'un coup, il y a 40 personnes avec des casques sur les oreilles en train de se balader en regardant tout autour d'elles dans le cimetière, ça ne passe pas tout à fait inaperçu. Mmh. Mais je me dis, voilà, c'est silencieux. Je pense que les gens, ils sont assez malins pour se dire que dès que tu croises quelqu'un qui a l'air pas très en forme, tu respectes un peu. De toute façon, c'est un peu la loi du cimetière. On sait tous que on est censé faire un peu attention à la façon dont on se tient dedans, mais en même temps, c'est intéressant de jauger cette frontière-là, ouais, jusqu'à quel point on a le droit de dépasser les bornes ou pas. Je voulais dire un autre truc, mais j'ai oublié. Et puis après, moi, dans mon idéal, je me dis que cette personne qui est venue se recueillir, eh ben, peut-être qu'elle aussi, après, elle pourrait participer à la performance, jouer au spirit. Et je pense que c'est un exercice qui lui ferait du bien, parce que j'ai l'impression... Je ne sais pas très bien ce que dit mon travail, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça dit un peu quelque chose du style « Vous inquiétez pas, ça va bien se passer, quoi. »
Est-ce qu'il y aura un autre lieu d'écoute, puisqu'il y a ce dispositif avec les émetteurs et les casques dans l'enceinte du cimetière, mais il n'y a pas d'écoute prévue de manière publique, comme on a peut-être l'habitude de le voir dans le cadre de Numéro Zéro, au cinéma Le Bourget, par exemple?
Eh bien, a priori, non, parce qu'en fait, ma petite particularité à moi, ce qui m'intéresse, c'est les relations avec la personne qui écoute et de faire de cette personne qui écoute aussi un acteur de la situation et que sa présence ait vraiment du sens. En fait, pour moi, c'est important qu'il n'y ait pas un montage figé, que la personne est censée écouter en restant assise dans un coin et il faut qu'elle se taise et elle écoute et c'est tout ce qu'elle a à faire. Pour moi, c'est vraiment très important de renverser un peu cet équilibre des forces de la radio. On est tout seul et on parle à des millions de personnes. Je sais pas combien, c'est des millions, c'est peut-être.
En tout cas, ce statut de l'écoutant par rapport au documentaire, ouais, où on a quelque chose d'assez frontal.
Ouais, j'ai envie de l'avoir en face de moi, qu'il puisse me dire qu'il aime pas, s'il aime pas, qu'il puisse jouer avec ce que je lui propose. Là, l'idée des émetteurs, c'est qu'en fait, c'est lui qui fabrique une narration, il se balade, et puis quand il en a un peu marre d'aller par là, il va à droite, et là, il découvre autre chose. Mais après, en vrai, bon, ça, c'est l'idéal. Mais par exemple, il y a des gens, je suis censée rencontrer des gens des maisons de retraite de Fort-Calquier, et eux, ils risquent d'avoir des difficultés à se déplacer. Mmh. Et du coup, je pense que je vais faire pour eux et pour la postérité un petit montage plus traditionnel aussi.
Mmh. Un peu adapté aux situations et au, ouais, public.
Mais sinon, l'idée, c'est vraiment... Il y a plein de choses à inventer, en fait. Il y a plein de trucs chouettes avec le son à faire et faut juste essayer, quoi. Mmh.
Je te propose qu'on fasse une petite pause musicale et on va revenir sur ce projet de collecte de témoignages autour de la mort. On écoute Louis Armstrong. Quelques mots sur cette chanson.
Ah ouais, je peux peut-être vous dire ce que ça raconte parce que c'est de l'anglais. Je sais pas très bien si tout le monde... Bah, par exemple, moi j'aimais bien cette chanson quand j'étais ado, mais je comprenais pas très bien les paroles. En gros, du coup, c'est Louis Armstrong qui va dans un hôpital. Qui voit sa meuf, parce qu'il dit my baby, donc je pense qu'on dirait pas sa copine, allongée, assise sur une table, froide mais douce et belle. Et bon, il doit être un peu triste, mais en tout cas, ce qu'il dit à ce moment-là, c'est que quoi qu'il arrive, maintenant, là où elle ira, elle trouvera pas un meilleur mec que lui. Et après, il donne ses dernières. En fait, après, il dit ce qu'il veut comme dernière volonté, comment il organiserait ses funérailles. Donc lui, il veut des. Straight leg shoes, je sais pas trop bien ce que ça veut dire, mais ensuite il veut un gros manteau un peu de mafieux, un Stetson sur la tête et une grosse pièce en or sur sa gourmette, et comme ça les gens du quartier sauront que il est resté vaillant jusqu'au bout. Bon, après du coup j'ai vérifié pour l'enterrement de Louis Armstrong, en fait il porte pas de Stetson ni de manteau, donc c'était peut-être juste un personnage.
En tout cas, on est complètement dans le sujet, dans cet exercice de projection autour de sa propre mort.
I went down to St. James Infirmary. Saw my baby there. She was stretched out on a long white table, so cold, so sweet, so fair. Let her go, let her go, God bless her, wherever she may be. She can look this wide world over, but she'll never find a sweet man like me.
Bragging.
When I die, bury me in straight lace shoes. I want a box bag coat and a Stetson hat.
John B., that is.
Put a $20 gold piece on my watch chain, so the boys will know that I died standing back.
Et de retour en direct dans les studios de Fréquence Mistral à Manosque, où nous sommes avec Samia Eladj, qui nous parle de son projet de création radiophonique autour de la mort. Ça s'appelle Pompe Funèbre. Et le principe, tout simple, c'est une collecte de paroles autour de la mort, de témoignages, et notamment de projections de personnes qui se projettent dans leur propre mort.
La version un peu vendeuse, c'est vos funérailles comme si vous y étiez.
Cette version vendeuse, donc, ça tombe bien, puisque il y a aussi un appel à participer s'il y a des auditrices, auditeurs qui nous écoutent et qui sont intéressés par ton projet, puisqu'il n'est pas terminé, ce projet, même si tu as déjà 40 témoignages.
Oui, en fait, j'ai peut-être les yeux plus gros que le ventre, mais je suis toujours curieuse et ravie de rencontrer des nouvelles personnes. Donc, si parmi vous, y a des gens qui auraient envie de passer à la casserole, de répondre à mes questions et d'organiser leur funérailles avec moi, puis peut-être même de mourir avec moi, et ben, on m'a dit que ce serait possible peut-être de mettre mon numéro, mes coordonnées sur le site de Fréquence Mistral.
Oui, on va faire ça, puisque cette émission sera réécoutable à partir de notre site fréquencemistral.com, tout simplement, et il y aura donc tes contacts, ou les personnes qui nous écoutent et qui sont intéressées pourront donc se mettre en lien avec toi.
Ce sera l'occasion là pour vous là qui écoutez Fréquence Mistral que dans votre voiture d'aller un peu tapoter sur votre clavier et voir à quoi ressemble le site internet de la radio. Souvent les sites internet de radio associatifs sont horribles, donc ça va être l'occasion de découvrir si c'est le cas ou pas.
Sans commentaire. Ce projet donc de création radiophonique et d'écoute immersive, ça se passera, je le rappelle, dans le cadre du numéro 0. C'est le festival cinéma et d'écoute radiophonique, 5e édition du 2 au 8 mai de cette année. Donc il te reste beaucoup de travail de montage.
Ouais, il me reste un long travail de défrichage, de montage et puis de test avec ces émetteurs. Parce que là, je fais un peu comme si tout était simple, mais en vrai, du coup, ça utilise... ça utilise la magie des ondes électromagnétiques et les ondes électromagnétiques, c'est un sacré truc. C'est complexe, en fait, de faire se parasiter des émetteurs et que ce soit joli. Mmh. Ça, pour l'instant, c'est une zone un peu grise.
Il y a aussi un pan technique assez compliqué, pour le coup.
Oui, il y a une partie aussi technique qui m'amuse beaucoup. En fait, à la toute base, je voulais fabriquer des émetteurs en électronique. Finalement, j'utilise des Raspberry qui fonctionnent très, très bien aussi. Et il y a un vrai jeu un peu avec cette matière de la radio, ce grain. Qu'est-ce que c'est qu'une onde? Comment elle voyage? Ce truc un peu fou, en fait, tout à l'heure, je parlais du moment où les scientifiques... Enfin, je parlais d'Edison, mais en fait, il y a tout un moment, 1850-1950, où la plupart des scientifiques ont tout ce moment un peu table tournante où les gens pensent qu'on va vraiment réussir à parler avec les morts. Et ça tient au fait que c'est un moment où on invente plein de trucs. Quoi. On invente la radio, on invente le téléphone, on invente... le morse, on invente... je ne le dis pas dans le bon sens, mais... en gros, on commence à pouvoir papoter avec des gens qui ne sont pas là, on commence à pouvoir papoter avec des gens qui sont de l'autre côté de l'Atlantique, et du coup, ça paraît une suite logique, en fait, de pouvoir parler avec les morts. Mmh. Et tout ce moment, c'est le moment où on domestique les ondes électromagnétiques. Et les ondes électromagnétiques, figurez-vous, c'est ce qui... Alors là, je sais pas... Comment on appelle ça? Là, c'est vraiment des ondes hertziennes qui voyagent de ma voix à la voix des gens qui entendent.
Oui, tout à fait.
Et bien, du coup, c'est ça. C'est des ondes magnétiques qui vous amènent les fréquences de ma voix jusqu'à vous. La syntaxe n'est pas très bonne, mais en tout cas, c'est complètement dingue quand on y pense.
Mmh. On sent bien ta passion et cette fascination aussi pour cette magie de la radio. C'est aussi le cœur de ton travail, ce qui est aussi l'occasion pour cette dernière partie d'interview de parler de tes autres projets, puisque tu en as fait déjà une bonne quantité et que c'est ton travail, tu as été formé pour ça, tu continues à te former autour du son.
Ouais, c'est ça. Là, en fait, je suis un peu en train de redécouvrir... en gros, le confinement, le coronavirus, tout ça, moi, ça m'a permis de redécouvrir un peu ce que c'était que la radio et de percuter un peu sur tout ça. Mais avant, j'étais plus... En gros, moi, je viens du coup de la radio traditionnelle et plutôt artistique, créative, documentaire. Mais ça me chagrinait un petit peu, en fait, d'être toute seule derrière mon micro ou derrière mon ordinateur en train de faire des trucs pour les distribuer comme ça. Et du coup, avant de redécouvrir ce que c'était que la radio et d'avoir envie de jouer avec des émetteurs, je m'étais dit, ah, mais il faut faire de la radio en public parce que les gens, ils... En fait, c'est ouf, la radio, on se rend pas compte, mais le bruitage, c'est complètement dingue. Les gens qui papotent dans un micro, on peut faire plein de trucs très, très bêtes, très, très rapidement avec un micro. Et du coup, j'avais envie de partager le micro avec d'autres et de faire un truc où voilà, on peut passer d'un côté ou de l'autre du miroir, on peut écouter, mais on peut parler, on peut passer d'un truc à l'autre. Ouais, bon, voilà. Et du coup, plutôt de la radio en public. Donc j'ai fait un truc qui s'appelle la cellule d'assistance psychologique, que j'ai toujours des difficultés à dire sans zozoter, mais qui est une espèce de vraie fausse émission. Menée par un gourou charismatique qui est donc moi-même. Et là, ce seul et unique épisode de la cellule d'assistance psychologique, qui est le numéro 18, c'est sur la décomposition humaine. Et c'est, l'idée, c'est que moi et le public, on fait semblant... On fait une petite méditation un peu ASMR, finalement, et qui nous invite à observer les différentes salves d'insectes qui viennent coloniser notre cadavre quand on meurt. Et c'est un exercice assez drôle, en fait. Je raconte très vite.
C'est bien de le dire.
En fait, il y a aussi une autre partie de moi qui aime bien mettre les pieds dans le plat et qui aime bien générer de la gêne, je crois. Mmh. Je pense que c'est une façon d'avoir transformé un défaut en force. Et du coup, l'avantage de cette cellule d'assistance psychologique, mais aussi ça marche un peu dans mes petits entretiens sur les funérailles, c'est comment est-ce qu'on vit la gêne à plusieurs et en fait comment est-ce qu'on la transforme. Et du coup, souvent, ça fabrique un peu du rire.
Et ça, c'est une sorte de performance, spectacle, écoute.
Ouais, c'est un conte. Enfin, en gros, c'est une méditation dirigée, mais je sais pas très bien comment on fait, mais on peut dire que c'est une conteuse, donc cette voix narrative. Et il y a plein de sons, de field recording, c'est des enregistrements de nature que j'ai fait moi-même, qui sont très très chouettes, qui sont, je sais pas, associés à des insectes venant coloniser notre cadavre et prennent on oublie tout d'un coup que c'est des paysages.
Et peut-être peux-tu nous parler aussi d'autres projets éventuellement, si tu as envie, que tu mènes?
Bah, dans le même style, il y avait Femme seule, malaise général. C'est un projet mené à partir... En fait, j'enregistre toutes mes conversations téléphoniques, et plus particulièrement celles avec celui qui était, qui est, qui... On sait jamais très bien si on est peut-être ensemble ou pas, mais que je suis censée aller rejoindre juste après. et qui,
j'espère qu'il nous écoute, il est ravi.
Que j'aime beaucoup. Mais avec la... Bon, comme dans toutes les histoires de couple, souvent c'est complexe, quoi. Et du coup, le principe, c'est que... Le public est invité à jouer le rôle de mon copain dans une pièce en 5 actes, une tragédie digne des plus grands drames antiques. Et donc, en fait, la voix de mon copain a été effacée partout. Et c'est le public qui reprend le flambeau. Parfois tout seul, parfois à plusieurs. Et qui papote avec des enregistrements de moi du passé. Et puis d'autres gens du public qui font des bruitages en même temps. Et voilà.
Et peut-être un dernier projet qu'on va écouter d'ailleurs comme rendu, ça s'appelle La petite chanson pour être heureux. Mais avant de nous le présenter, une dernière question. S'il y a des auditrices, auditeurs qui nous écoutent, est-ce que tu as un site internet où on peut voir tes différents travaux?
Oui, le site internet, c'est mon prénom et mon nom. Je m'appelle Samia Elhadj. Alors ça s'écrit SAMIAELHADJ.fr. Ça veut dire Samia, ça veut dire sublime et supérieur. Et Eladj, c'est un titre honorifique qu'on donne beaucoup au Maghreb, qui veut dire qu'on a été à la Mecque, ce qui n'est pas mon cas, mais ce qui n'est pas non plus le cas de mes ancêtres, mais ils ont été très forts pour faire semblant. SamiaElhadj.fr.
On mettra la référence du site aussi sur notre site internet. Ouais. Et peut-être en quelques mots, alors, la présentation de ce projet qu'on va écouter, qui dure 4 minutes 30.
Et ben, ce petit projet, c'est ma transition dans ma réflexion de « Ah, merde, c'est un peu chiant de... » Pardon. « Ah, mince, c'est un peu embêtant de faire des choses tout seul derrière son ordinateur avec son micro. » Et du coup, l'idée, c'est de faire en sorte que la matière que je vais travailler, ce soit que les gens qui me l'amènent. Et donc j'avais mis une petite annonce dans la rue avec mon numéro de téléphone et invité les gens à laisser des messages sur mon répondeur.
Il y avait marqué « Perdu toute confiance en moi, si vous l'avez vu passer, laissez-moi un message sur mon répondeur ». Et ça a marché.
Et ça a très bien marché, ouais. J'ai reçu beaucoup de messages de soutien, quelques messages un peu moins sympas, mais en fait tellement de messages que là vous entendez la version officielle, originale, qui dure 4 minutes, mais j'ai pendant très très longtemps été bloquée avec une version de 15 minutes parce que j'avais envie de tout garder.
Tout garder. Merci beaucoup, en tout cas, Samia, d'être venue dans nos studios pour parler de votre projet de création radiophonique. Si on avait plus de temps, on en aurait parlé davantage. En tout cas, c'est quelque chose, personnellement, qui me donne très envie d'élargir encore cette question de la mort et aussi ton travail, ton rapport à la radio, au son, etc. Et plusieurs questions dont on avait parlé aussi en off qu'on n'a pas eu le temps d'aborder lors de cette heure qui est passée très vite.
Je suis ravie d'avoir pu jeter un coup d'œil au studio de Fréquence Mistral. Et puis après, vous savez que vous avez mes coordonnées ou qu'il y a une restitution finale du 3 au 8 mars au cimetière de Forcalquier. Je ne sais plus exactement quand. Donc, si vous voulez passer d'un côté ou de l'autre du micro ou des oreilles, la bouche ou les oreilles, vous êtes les bienvenus.
Eh bien, merci beaucoup. Et encore une fois, toutes les références seront sur notre site. Merci d'être venu. On écoute la petite chanson pour être heureux.
Bonjour, je m'appelle Gaël. J'ai vu cette petite annonce dans la rue. Apparemment, vous avez perdu quelque chose. Mais peut-être qu'avec un peu de soutien ou Nambi, il faudrait écouter.
Oui, c'est très mal, ce n'est vrai.
Je propose, pourquoi pas parler avec un psychologue.
Je suis sûre que tu es un homme ou une femme, je ne sais pas, incroyable et magnifique.
Donc prends soin de toi.
Viens, viens, je m'appelle Étienne, je t'offre un café chez Maria. Demain.
Salut, on a pris en otage ta confiance en toi.
Ouais.
Si tu veux la récupérer, recontacte-nous par message privé. Hein. On veut pas, tu nous mets pas les condés sur le dos. Attention, tu es prévenu.
Bah, j'ai retrouvé ta confiance. Elle est dans la personne que tu vois tous les matins dans la glace. Elle est dans ton visage, la couleur de tes cheveux, dans tes yeux. Elle est toi.
Je suis pas sûr, mais j'ai fait un rêve hier soir où j'ai aperçu une lueur et je vous ai aperçu, vous et moi. J'ai vu un voyage, j'ai vu une expérience, j'ai vu une connivence et une espèce de fusion. Et je pense que la seule solution pour retrouver notre confiance, c'est de devoir vivre ça tous les deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va devoir faire l'amour.
Votre confiance va bien. Elle avait juste un petit peu des doutes en ce moment. Mais ne vous inquiétez pas. Votre confiance en vous va revenir. Donc elle fait le point. Hein, votre confiance en vous fait le point. Elle a arrêté de boire. Hein, voilà, votre confiance en vous a arrêté de boire. Et elle va partir au Népal en octobre. Ah, voilà, hein.
Donc je veux commencer à appeler et là mon téléphone bug. Pile à ce moment-là.
C'est un bug. C'est un truc pour te ruiner ton téléphone.
C'est un virus.
Ouais, salut. Du coup, je sais pas comment tu t'appelles, mais je voulais te dire que le mec qui t'a appelé juste avant, en fait, il raconte des conneries et qu'il a pas trouvé ta confiance.
Ouais, allô? On peut t'enculer? Au revoir.
Alors, par la maman, confiance maintenant? Allez, confiance, dis quelque chose. Confiance, allez. Et parle-lui. Bon, écoutez, confiance, ça n'a pas envie de vous parler, mais on espère que... Confiance, dis quelque chose. Dis quelque chose, confiance.
Mais ne crie pas dessus comme ça, écoute. Bon, alors,
Normalement, on s'y prend c'est mieux, mais c'est pas facile quand même. Votre... Non, ah, non, 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 chérie, non, non, non.
La petite chanson pour être heureux.
Oui, salut, bonjour. J'appelle à propos de cette histoire de confiance perdue. Moi, je ne l'ai pas retrouvée, la tienne, mais j'ai perdu la mienne aussi. Et je ne sais pas, peut-être depuis longtemps. Voilà.
Ta confiance, je pense qu'elle est perdue vraiment, vraiment, quoi. Et du coup, j'aimerais te serrer fort dans mes bras et te dire que c'est pas grave et que la confiance, ça peut se recréer. Et c'est très important.
Et merci encore une fois à Samia et Eladj pour ce petit extrait, ou plutôt cette création, puisque ce n'est pas un extrait, cette création sonore.